Je vais présenter maintenant Xavier Greff. Donc, il est né en 1944. Il est économiste, docteur d'État en sciences économiques, avec une thèse sur la valeur en finances publiques, agrégé des facultés de droit et de sciences économiques, option sciences économiques, depuis en 1970. Il a été assistant à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, au départ. Il a été ensuite professeur à l'université d'Alger, à l'université de Paris-Nord. Il a aussi, avant de devenir professeur à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, un de mes collègues que je connaissais par oui dire, mais que je ne connaissais pas des visu, il a aussi occupé des fonctions, je dirais, administratives et de recherche appliquée, puisqu'il a été recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, recteur de l'Académie de Poitiers, mais qu'il a été aussi, par exemple, responsable de la mission aux technologies nouvelles du ministère de l'Éducation nationale, chargé du plan informatique pour tous, 84-85, rapporteur général de la commission de réforme de la planification, président de la commission Nouvelle demande, nouveaux services du 10e plan, etc. Donc c'est non seulement un théoricien, mais quelqu'un qui a le, disons, hein, le sens de l'expérience pratique. Ces publications, j'en dis quelques mots, vous pouvez les trouver sur les sites internet, parce qu'elles sont nombreuses, mais je donne une idée. Société post-industrielle et redéveloppement, c'est intéressant de le signaler, puisque c'est en livre de poche, collection plurielle, de 1992, Comprendre la politique économique dans la clé pour la science économique aux éditions Economica en 93, Économie des politiques publiques, la formation professionnelle des jeunes, l'évaluation des projets publics, la gestion du patrimoine culturel, la plupart du temps aux éditions Economica, l'emploi culturel à l'âge du numérique en 1999, et puis en collaboration avec des collègues, Encyclopédie économique aux éditions Economica, 1990.
Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Lorsque le prix Nobel de sciences économiques, intitulé prix Nobel, fut créé en 1969, nombreux furent les économistes qui, à ce moment-là, y virent la consécration de leurs connaissances. Ils étaient déjà érigés au rang de sciences sociales et les sciences économiques partageaient désormais l'aura des sciences exactes. Pourtant, certains des lauréats de ces prix Nobel ont rapidement calmé le jeu et parmi eux, deux d'entre eux, peut-être pas les plus connus, Gunnar Myrdal et Amartya Sen. Le premier, Gunnar Myrdal, montra très vite la difficulté de tenir l'économie à l'abri des conflits de valeurs. Et le second, beaucoup plus récemment, Amartya Sen, mit en évidence la tendance de cette science économique à réduire la complexité et la richesse des phénomènes sociaux, d'où l'expression de « réduction à l'économique ». Dans la société contemporaine, la contestation de cette réduction est autrement radicale que les réserves de Myrdal ou de Sen. Au XIXe siècle, il y avait déjà des discours feutrés sur ce que l'on appelait alors la science triste. Mais aujourd'hui, ce sont des invectives sur l'horreur économique et il n'y a pas de jour où la globalisation de l'économie n'est dénoncée avec son cortège d'appauvrissement, d'atteinte à l'environnement, voire d'aliénation. N30, A16, S26, la résistance anticapitaliste code les manifestations qu'elle entend développé à chaque nouveau Seattle, Washington ou Prague. Et trois institutions, comme leur politique, sont devenues les symboles de cette contestation d'une pensée unique et plus encore d'une politique unique. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Et toujours plus nombreuses sont les organisations non gouvernementales ou les militants qui rallient ce combat contre la globalisation au nom de manifestes associant la défense des droits de l'homme, la protection de l'environnement et la volonté de mieux contrôler les mouvements de capitaux à travers la fameuse taxe dite taxe Tobin. Les attaques contre le raisonnement économique dominant y servent donc de flambeau et beaucoup de ces initiatives partagent la conviction que des démarches politiques courageuses changeraient sans ambiguïté aujourd'hui le cours de l'économie. La science économique et les économistes, pour la plupart d'entre eux, sont donc accusés de réductionnisme. Ils simplifieraient à l'extrême les phénomènes et les comportements sociaux pour les faire entrer dans un traitement unifié sur le mode de l'économique, d'où les thèmes de l'économie du crime, de l'économie de la religion, de l'économie du mariage. En reformulant la vision des phénomènes sociaux au gré de leurs intérêts, la science économique et les économistes imposeraient un mode de pensée contre lequel il n'y aurait rien d'autre à faire qu'à attendre pour les uns la poursuite de tendances heureuses et pour les autres des jours changés. Au nom du marché et de son efficacité, l'économie priverait la politique de son rôle d'organisation sociale. Cependant, ce contenu réducteur et cette accusation extrêmement violente peut se prêter à deux interprétations assez différentes l'une de l'autre. Première interprétation et premier débat. Après avoir affirmé l'autonomie des phénomènes économiques par rapport aux autres phénomènes sociaux, la science économique en déduit que processus et lois économiques ne peuvent plus être ignorés par d'autres instances sociales, au premier rang desquelles la politique. La science économique serait en quelque sorte irréductible et il devient impossible de prétendre résoudre les problèmes économiques à partir de considérations exclusivement extra-économiques. En quelque sorte, les relations des hommes aux choses importent et il est impossible de passer sur leur importance. Deuxième signification de la réduction à l'économique, cette fois-ci, c'est le comportement de l'individu qui est en cause, car l'individu ne serait rationnel que si le pays au modèle dit de l'homo economicus, quel que soit le domaine où se déroulent ses activités, le travail, la religion, l'amitié. Les choix des individus sont ici ramenés dans un espace homogène, celui de leur intérêt propre, où seuls interviennent des signes plus et des signes moins. Il y a cette fois-ci réduction, en ce sens que seul leur intérêt propre importe, quelles que soient les autres passions qui puissent leur animer. Cette fois-ci, même si les relations des hommes aux choses comptent, on considère qu'elles ne peuvent pas être médiatisées par d'autres hommes ou d'autres groupes ou d'autres institutions. Je vais essayer de vous montrer que la première réduction n'en est pas vraiment une, alors que la seconde en est tout à fait une. En effet, la reconnaissance de l'autonomie des phénomènes économiques par rapport à d'autres phénomènes sociaux a été probablement le grand progrès des économistes à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, et il a débouché sur une incontestable meilleure compréhension des sociétés et encore des sociétés contemporaines. Parler ici de réduction risque de nier la manière dont les aspirations sociales se sont développées et de créer finalement l'illusion d'une politique qui, mise au poste de commandement, résoudrait tous les problèmes. Par contre, considérer que les comportements des individus et des institutions ne puissent être analysés qu'à travers le prisme de l'homo economicus est une toute autre affaire. Cette manière de procéder conduit à considérer les individus comme des monades et à écraser la manière dont on peut comprendre leurs actions en société. Je m'excuse, il faut que je vois si ça fonctionne ou pas. Oui, ça va. Bien. Premier débat, donc, existe-t-il une autonomie du champ économique ? Ce débat porte sur la reconnaissance d'un champ économique avec des lois et des connaissances qui lui sont propres, donc une reconnaissance doublée d'autonomie. Et une fois encore, l'enjeu n'est pas mince, car reconnaître cette autonomie, c'est reconnaître à l'inverse les limites qu'auront les instances politiques à nier ces lois, sinon à en moduler leurs effets. Pourquoi, de manière rituelle, voire lancinante, les économistes continuent-ils de voir, dans l'ouvrage d'Adam Smith de 1776, une enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, l'acte de naissance de l'économie ? Car pour eux, et pour la première fois, l'économie y échappe à la politique et à la morale pour faire l'objet d'une connaissance autonome. Cela ne signifiait pas avant l'absence de réflexion économique, mais plus simplement le fait que de telles réflexions y étaient systématiquement subordonnées à d'autres. Pour que la reconnaissance de cette autonomie, ait lieu, deux conditions devaient être remplies. La reconnaissance d'une matière première, le traitement spécifique de cette matière. La matière première, ce sera l'échange comme source de la richesse. Le traitement, ça sera le marché comme main invisible de la régulation entre les hommes. Pourquoi cette maturation prit-elle plus de deux siècles entre les premiers développements des mercantilistes et la richesse des nations ? Première difficulté, les mercantilistes avaient toujours éprouvé, au moins au départ, des difficultés à avoir une analyse synthétique des échanges, car d'un côté, ils souhaitaient montrer que l'échange était profitable à tous, mais de l'autre côté, ils ne cessaient de montrer que l'échange entre les nations était une forme de guerre. Et ce n'est que peu à peu, à partir du moment où les premières thèses des mercantilistes furent dépassées, que l'on réussit, ou en tout cas qu'à cette époque, on se mit d'accord sur le fait que l'échange pouvait effectivement être profitable à tous. Mais, seconde difficulté, il ne suffisait pas d'identifier une matière, encore fallait-il définir un ordre économique, et surtout que cet ordre économique soit découvert à l'intérieur même du champ économique, qu'il ne soit pas transposé à partir de doctrines telles que celles du droit naturel, par exemple. Ces deux conditions seront satisfaites de manière indépendante, la première par les physiocrates, la seconde par Mandeville, de telle sorte qu'il reviendra à Smith de les associer dans sa synthèse fondatrice, plus tard accusée de réductrice. Je cite Marx. « Représenter le processus de production du capital comme procès de reproduction et la circulation comme la simple forme de ce procès de reproduction dans l'enfance de l'économie politique, dans un tableau de 5 lignes avec 6 points de départ et d'arrivée, c'était une idée géniale, sans doute la plus géniale que l'économie ait mise à son actif jusqu'à maintenant. » Cette analyse de Marx a en effet célébré une première. Les physiocrates suggèrent un ordre économique qui n'est pas encore celui du marché, mais qui est déjà celui de la circulation. Le tout économique est cohérent, puisqu'il peut donc être désormais saisi à travers un système de relations logiques qui s'étend à la totalité du domaine. Mais cette cohérence reste ici inspirée par la projection d'un ordre extérieur, qu'Énée explorant en même temps les conséquences de l'application de la théorie du droit naturel sur les phénomènes économiques. Ces références, d'ailleurs, témoignent en permanence de sa filiation à la théorie du droit naturel, qu'il s'agisse du modèle de la Chine comme ordre immuable ou du rôle des propriétaires fonciers comme exerçant une fonction politique. Ceci dit, et dans le cadre de cette limite politique, la richesse a vocation à circuler entre les groupes et les individus, et c'est cela qui sera retenu et est à coup sûr le plus révolutionnaire aux yeux de Marx. Il existe un ordre économique, et malheur à l'État qui en altérerait les mécanismes, même s'il en garantit le principe. La seconde condition, faire en sorte que l'ordre économique soit justifié de l'intérieur, sera satisfaite par Locke et Mandeville, le premier recherchant l'autonomisation de l'économique par rapport au politique et le second l'autonomisation de l'économique par rapport à la morale. Arrêtons-nous ici sur le cas de Mandeville qui est sans doute le plus déterminant. Dans son premier ouvrage, La ruche bougonne ou les vauriens devenus honnêtes, Mandeville est particulièrement suggestif. Au départ, la ruche vit dans le vice, la tromperie, le luxe, l'orgueil. Optant pour la vertu, elle perd alors toute efficacité. À la séquence vice-activité-prospérité succède une séquence vertu-inactivité-pauvreté. Ce premier ouvrage fut fort mal accueilli et 6 ans après, Mandeville publia 6 dialogues, dont alors la célèbre et fameuse fable des abeilles. Il en évacue la corruption, mais il y conserve l'orgueil, ce qui constitue à l'époque une incontestable rupture avec la morale. Et il y montre alors que l'orgueil est un motif puissant de progrès, puisqu'il conduit les hommes à rechercher la louange et à chasser la honte. Il existe alors, selon lui, quelque chose entre les individus qui transforme la recherche de leur intérêt égoïste en bien-être collectif. Ce quelque chose est un mécanisme, un mélange de social et de marchand. Pourtant, et sur des bases comparables, Hobbes en avait tiré des conséquences diamétralement opposées, la société des loups l'emportant ici sur l'harmonie économique. Mais d'autres contemporains ou successeurs de Mandeville allèrent dans son sens. Rousseau, le commerce est un agent civilisateur. Montesquieu, c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Ricard, le commerce attache les hommes les uns aux autres par une utilité réciproque et fait taire chez eux toutes les autres passions morales et physiques pour faire place à l'intérêt. Smith sera l'incontestable débiteur sur ce plan de Mandeville, comme en a témoigné sa fameuse citation de la théorie des sentiments moraux, « Si destructif son système puisse-t-il apparaître, il n'aurait jamais pu s'imposer à tant de gens s'il n'avait pas, à certains égards, approché du vrai. » Et il le retranscrira en termes économiques dans ce qui est sans doute la citation la plus célèbre de la science économique, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du souci de leur intérêt propre. » En effet, en capitalisant l'héritage de Keynes et de Mangeville, Smith donnait du champ économique, et pour la première fois, une interprétation cohérente et indépendante de la politique et de la morale, tout ceci grâce à la concurrence sur laquelle je reviendrai, ou encore à la main invisible. Les conditions de la constitution du champ scientifique sont alors réunies, une matière propre, une méthodologie autonome, et c'est pourquoi son œuvre reste l'œuvre cardinale. Mais en amplifiant ce mouvement et en le situant par rapport au système économique capitaliste, les successeurs de Smith iront au-delà de cette reconnaissance de l'autonomie de l'économie pour en faire le levier obligé de la connaissance des autres domaines de l'activité sociale. Les mécanismes par lesquels Marx a inauguré cette perspective et créé l'analyse correspondante sont bien connus. Le caractère égalitaire de l'échange explose du fait de la distinction entre la valeur du travail et la valeur de la force de travail, lequel décrochage place l'exploitation au cœur du système. La notion de propriété est le résultat de rapports de force entre classes sociales, ce n'est certes plus un don de Dieu. L'individu est socialisé, et le concept de production est élargi au point d'évoquer la production de la société. Devenue l'instance déterminante du capitalisme, l'instance économique y sécrète les superstructures et les appareils idéologiques requis. À la science naturelle de l'individu en société de Mandeville succède la science historique des individus socialisés. Ce qui se voulait chez Marx comme explication de la seule société capitaliste va par contre être réinterprété par beaucoup comme une réduction de l'économique, car exclusivement centrée sur la domination de l'infrastructure économique. Marx avait pourtant souligné que cette domination de l'économie ne caractérisait que la société capitaliste et pas nécessairement d'autres sociétés. En passant trop rapidement sur cette spécification historique de son analyse, les uns y verront, et de manière définitive, une réduction, là où les progrès de la connaissance avaient pourtant été essentiels, et d'autres y verront la possibilité de s'affranchir de toute réflexion économique dès lors que les rapports formels du pouvoir changeraient dans la société capitaliste. Mais cette autonomie de l'économie, qui est finalement le grand héritage de la pensée classique, restait ouverte. Elle pouvait ouvrir la voie à l'homo economicus comme à d'autres analyses de la rationalité des comportements économiques. Après tout, s'il n'y a rien d'étonnant à considérer Marx comme un économiste classique, il serait aberrant de l'imaginer comme compagnon de route des néoclassiques. Et comme l'écrivait un sociologue américain, Granovetter, l'individu des classiques n'a rien à voir avec celui qui suivra. Le premier est sursocialisé, là où le second sera sous-socialisé. Les conditions du premier débat sur la réduction économique sont désormais réunies. A-t-on le droit de postuler l'autonomie de la sphère de l'économie par rapport à d'autres sphères de la vie sociale, et a fortiori, a-t-on le droit d'établir une hiérarchie à son profit? Il existe en fait deux questions pour trancher, ou en tout cas pour éclairer ce débat. Les individus valident-ils cette spécificité de l'économie? Et que se passe-t-il lorsque l'on nie cette spécificité de l'économie? Reconnaître l'autonomie du champ économique, c'est supposer que les relations des hommes aux choses importent, qu'il existe des désirs de satisfaction des besoins matériels qui ne sont pas épuisés. Lorsque l'on parle de démocratie réelle, de liberté réelle, de droit réel, on introduit l'idée que sans contenu effectif et que sur le plan économique, l'affirmation de tels principes n'a guère de contenu. Les aspirations qui traversent les sociétés resteraient donc des aspirations pour l'essentiel en termes de satisfaction des besoins. Faut-il appeler ici à la rescousse tous les écrivains et tous les artistes qui, au cœur de leur démarche, ont toujours rappelé cette évidence de Tolstoï à Picasso? Dans son ouvrage récent, Culture Shift, paru il y a quelques mois, Engelhardt, qui étudie depuis à peu près une trentaine d'années toutes les aspirations dans la société européenne, constate que les personnes restent concernées par la satisfaction des besoins matériels. Je le cite, « Les personnes sont toujours concernées par des besoins immédiats. Le besoin de beauté peut être plus ou moins universel, mais les gens qui ont faim privilégieront la nourriture aux besoins esthétiques. » Certains pourraient prétendre que l'essentiel des besoins est aujourd'hui satisfait et qu'il n'y a donc plus de raison de reconnaître à cette sphère économique, indissociable des succès et des échecs du capitalisme, une soi-disant autonomie. C'est oublier les analyses pertinentes de Marshall Salins dans son ouvrage sur les sociétés primitives. Si les sociétés primitives étaient des sociétés d'abondance, ce n'est pas parce que la rareté y était vaincue, mais parce qu'elles avaient socialement limité le montant des biens produits. Et, je le cite, « si l'homme primitif ne rentabilise pas son activité, c'est non pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais parce qu'il n'en a pas envie. » Il existe, par contre, une dynamique de l'économie de marché qui dépasse largement le seul problème de la satisfaction des besoins, celle de l'enrichissement pour l'enrichissement. Aristote l'avait déjà condamné sous le couvert de la crématistique, car il y voyait une action dissolvante pour la société. Et lorsque Durkheim voyait dans la division du travail un mécanisme d'unification plus profond que les rencontres fortuites en termes d'échanges, mais dans la société de marché, une société dissolvante, il opposait déjà économie de marché et société de marché. Seconde question, après l'attitude des individus, peut-on changer la nature des dynamiques économiques à l'aide des choix politiques ? Mettre la politique au poste de commandement a été une des plus célèbres phrases du président Mao Tse-tung, dont on ne peut guère dire qu'elle ait à elle seule renversé la rareté en Chine. Mais ce fut aussi le projet de bien d'autres, lesquels considéraient qu'une fois les rapports de propriété changés, rapports formels, ou plus simplement encore le pouvoir politique redistribué, les lois économiques pouvaient perdre toute la signification qu'on leur prêtait. Longtemps, les réformes économiques dans l'ancienne Europe de l'Est ont été d'impossibles compromis entre des réalités économiques auxquelles on entendait échapper et des comportements politiques autoréalisateurs, et le coût en fut très élevé. Le problème se pose évidemment dans des termes beaucoup moins dramatiques dans les pays de l'Union européenne, mais il s'y pose aussi. Les choix de politique économique peuvent-ils faire l'impasse sur les connaissances économiques ? La sanction est souvent forte, même si elle est décalée dans le temps. En refusant, c'est vrai qu'il y a, c'est il y a déjà longtemps, mais en refusant en 1968 une dévaluation qui s'imposait, on la retrouva l'année suivante avec un coût plus élevé pour l'économie française. Substituer la politique à l'économie a d'ailleurs été, dans la période contemporaine, la démarche des avocats d'une relative fermeture de l'économie. Et le dernier grand débat de politique économique qui a eu lieu en France en mars 1983, sous l'égide d'ailleurs du maire de Lille, était totalement centré sur cette question. Il est donc difficile de voir dans l'affirmation d'un champ et d'une spécificité économique une réduction de la réalité des sociétés. Parler ici de réductionnisme économique ou de réduction à l'économique n'a guère de sens, sauf à prétendre se substituer soi-même aux aspirations des individus ou à prendre le risque de tensions extrêmes. Ce ne sera pas du tout la même chose lorsque l'on va considérer la logique de l'homo economicus. Une chose est de mettre, je crois qu'il y a un petit problème, il faut avancer. Ça va, c'est bien, merci. Une chose est de mettre en évidence la réalité de la sphère économique, autre chose est de postuler comme rationnel un seul principe de comportement, celui de l'homo economicus. Considérant son seul intérêt, cet être relativement indéterminé maximise sa propre utilité en affectant les ressources sous son contrôle. Cette utilité porte sur les seuls biens ou services qu'il consomme ou qu'il détruit, mais ni sur les quantités consommées par d'autres, ni sur les processus qui y conduisent. Rien ne semble plus naturel. Pourquoi dépenser plus si on peut avoir le même résultat à un moindre coût ? Pourquoi avoir moins si on peut avoir plus avec le même montant de ressources ? Telle quelle, cette proposition n'a pas plus de sens que pour un oiseau qui prend son vol et dont on peut attendre aussi qu'il maximise sa propre utilité ou qu'il minimise son effort, comme l'avait souligné Boulding. Peut-être est-ce d'ailleurs pour cela que les économistes aiment tellement parler de Robinson Crusoe. Peut-on s'en remettre à cette approche pour analyser les comportements d'hommes vivant en société et pour lesquels les rapports aux choses seront médiatisés par des rapports à d'autres personnes ou d'autres groupes? Peut-on analyser la rationalité d'un comportement en l'absence de toute valeur sociale, c'est-à-dire de tout type de préférence entre individus ou groupes? Cela semble impensable, et c'est pourtant ce qui va être proposé par le programme de l'Homo economicus à travers une double alchimie. Premièrement, première alchimie, la recherche de l'intérêt l'emporte sur toute autre passion humaine. Deuxième alchimie, l'Homo economicus ne doit jamais être confronté à d'autres passions ou valeurs, alors même qu'on entend l'utiliser pour expliquer tous les domaines de la vie en société. Première alchimie. Répondant à la fameuse interrogation de Weber, on va voir si c'est ça, c'est une citation de Weber, c'est juste avant. Répondant à la fameuse interrogation de Weber, comment une activité au mieux tolérée par la morale a-t-elle pu se transformer en vocation ? Alfred Hirschman montre que de toutes les passions humaines, c'est l'intérêt qui l'a emporté. Depuis le Moyen Âge, en effet, et selon lui, trois grandes passions sont identifiées ou seraient identifiées. L'amour du pouvoir, l'amour de l'argent et l'amour de la chair. Mais il admet aussitôt qu'un de ces vices ou passions puisse réfréner les autres, d'où l'idée de la passion compensatrice. Comme il n'est pas plus possible de réprimer les passions que de les exploiter, le seul moyen de les réguler est alors de se servir de passions inoffensives pour contrecarrer les passions les plus dangereuses, et la passion inoffensive acquérera alors la qualité de vertu. Laquelle de ces passions sera donc appelée à jouer le rôle de dompteur ou de passion inoffensive ? Ce sera l'intérêt ou la capacité à suivre ses inclinations de manière méthodique et raisonnable. Autrement dit, de préconiser l'introduction dans le comportement des hommes d'un élément de calcul où, aux considérations de prudence, s'ajouterait le souci d'efficacité. Le rapport entre cet intérêt et le goût de l'argent devient évident à une époque où l'économie de marché et l'accumulation du capital se développent. Désormais, comme l'écrit Hirschman, un type particulier de passion, dénommé jusqu'ici cupidité, avarice ou appât du lucre, peut servir à contrecarrer et réfréner d'autres passions, comme l'ambition, l'amour du pouvoir ou la concupiscence de la chair. Selon un dicton que communément admis, l'intérêt ne saurait mentir, et Helvétius ira au terme du chemin en affirmant que si l'univers est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. L'intérêt apparaît donc comme l'amour de soi maîtrisé par la raison ou comme la raison animée par l'amour de soi. Cette émergence de l'intérêt, véritable base du programme intellectuel de l'Homo economicus, se pare en outre des qualités de prévisibilité et de constance que souhaitaient d'autres pour fonder une norme de rationalité. Et ce programme intellectuel de l'Homo economicus n'avait de chance de se poursuivre et de se maintenir que s'il arrivait à éviter soigneusement que les valeurs et les passions jetées par la porte ne réapparaissent à la fenêtre. L'homo economicus n'est economicus que s'il est aveugle à toute autre passion que l'intérêt. Or, il existe au moins cinq raisons susceptibles de replacer les valeurs au centre de la scène ou d'engendrer les conflits qui y conduiront. L'inégalité des gains dans l'échange, le changement des goûts, la considération des autres, le recours aux institutions, la tentation du politique. Éviter de poser le problème de l'affectation en termes d'individus était le premier défi à relever. Pourquoi ? Parce que l'affectation des ressources est à la source de conflits innombrables, et si ces conflits sont posés en termes de personnes, il est évident qu'il faut faire intervenir des jugements de valeur pour les trancher. Comment faire alors en sorte que les tensions interpersonnelles soient évacuées de l'échange ? La solution fut trouvée par les tenants de l'economicus dans la substitution du raisonnement en termes d'agents au raisonnement en termes d'individu. Défini de manière complémentaire, comme offreur ou demandeur d'une ressource donnée, les biens, le travail, le capital, de tels agents ont donc intérêt à coopérer. Mieux, le fait d'être spécialisé induit spontanément le concept d'avantage relatif et l'intérêt à participer aux échanges puisque l'on s'y présente au nom de ce pourquoi on est le plus efficace ou de la ressource que l'on possède plus que d'autres, qu'il s'agisse des biens ou services, du travail ou du capital. Mais deux problèmes se posent alors. Est-ce que la complémentarité des rôles entre agents, ici substituée au conflit entre individus, va véritablement évacuer tout conflit quant à la répartition des gains? Et deuxième problème, dans quel ordre les individus réels assumeront-ils leur rôle successif? Organiser l'affectation des ressources sur le mode de la complémentarité et de la dépendance mutuelle ne fait pas en effet disparaître les sources de conflit. Rien n'empêche un agent consommateur d'être exploité par un agent producteur et inversement. Par contre, si la concurrence entre producteurs conduit le producteur malveillant à être éliminé au profit des autres producteurs ou le consommateur malveillant à se voir privé du marché par d'autres consommateurs, la source de conflit liée à la répartition des gains à l'échange va disparaître. La concurrence vient donc au renfort de l'homo economicus, à condition qu'elle soit praticable, ce qui, dans l'histoire de l'analyse économique, a pris des formes extrêmement variées, allant autrefois de la condition d'atomicité à aujourd'hui celle de la récupération des coûts d'entrée. Deuxième problème quant au caractère bienfaisant de l'échange, l'ordre dans lequel l'individu considère ses rôles successifs n'est pas du tout neutre pour la solution finale. Prenons un même individu qui peut être en même temps demandeur de biens et offreur de travail, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous. La théorie économique l'envisage d'abord comme demandeur de biens, car il a alors intérêt à maximiser sa consommation, puis comme offreur de travail, où il a évidemment intérêt à travailler le plus possible. Mais si on renverse la séquence et si on commence son analyse en tant qu'offreur de travail, on peut fort bien envisager qu'il ne cherche plus à offrir la quantité maximale de travail, quitte dans un second temps à restreindre sa consommation sur le marché des biens de consommation. Mais comme ça remettrait en cause le principe même de la maximisation de l'utilité des biens consommés et donc la base de l'économie de marché, la théorie économique dira que l'agent à considérer en priorité absolue est le consommateur. Et l'analyse du travailleur fera fi ou considérera soit comme marginal dans le meilleur des cas, soit comme irrationnel, les préférences pour le travail en soi, la valeur d'identification ou la valeur de lien social du travail. Senne a merveilleusement exprimé les dégâts de cette attitude. En centrant sa réflexion sur les produits, la théorie économique du marché a abandonné une de ses valeurs centrales, la notion de liberté. On voit bien qu'un élément a disparu de ce scénario, la liberté d'agir comme on l'entend. Second défi, éviter d'avoir à poser le problème de la formation. Non, c'est avant, si c'est possible, mais c'est pareil. Bon, éviter d'avoir à poser le problème de la formation ou de la déformation des goûts et donc des valeurs sociales ou des choix sociaux que cela implique. Il y a un défi extrêmement délicat dans l'analyse économique contemporaine qui a d'ailleurs été, entre guillemets, résolu par deux économistes qui ont obtenu chacun pour des travaux de ce type le prix Nobel. Ce problème, c'est qu'il faut que les goûts restent stables. Et c'est le prix à payer pour qu'on ait la fameuse hypothèse que connaissent tous les étudiants, celle dite de l'utilité marginale décroissante. Et pourquoi faut-il que l'on ait cette fameuse hypothèse de l'utilité marginale décroissante en économie? Parce que si l'utilité marginale liée à la consommation d'un bien était croissante, les agents concentreraient leur consommation et leurs ressources sur certains biens bien spécifiques, empêchant les mécanismes autorégulateurs de conduire à l'équilibre, sécrétant le chômage systématique de certaines ressources et ouvrant nécessairement alors le débat sur les besoins à satisfaire et donc sur les valeurs sociales. Or, la réalité n'offre pas ce spectacle. Dans beaucoup de domaines, on voit ce qu'on appelle des amateurs, des dépendants, des fadas, des collectionneurs. Et elle l'offre d'autant moins que l'on considère justement ces domaines que la théorie économique cherche à investir, l'amour, la vocation religieuse, la consommation de drogue. Face à ce défi, deux possibilités sont alors ouvertes. Soit accepter les limites de l'homo economicus, admettre que les goûts puissent changer en permanence et ouvrir alors la voie à la pénétration de la psychologie, de la sociologie et des valeurs dans le discours économique, ou alors fermer la porte à de tels débats de valeurs. Becker et Stigler ont choisi la seconde voie, en considérant tout simplement que ce n'était pas les goûts qui changeaient, mais la manière dont les agents savaient combiner les biens qu'ils achetaient sur le marché, leur savoir-faire et leur temps pour satisfaire leurs besoins. Si on consomme de plus en plus d'un bien, ce n'est pas parce qu'on l'aime de plus en plus et que ses goûts changent de manière croissante, mais tout simplement parce que l'on est devenu de plus en plus efficient dans la production des aménités. Le risque de l'instabilité des goûts est troqué contre l'hypothèse de la productivité du producteur-consommateur. Le plus dur est fait parce qu'on reste entre économistes, mais il faut encore trouver une limite malgré tout à la consommation. Et cette limite sera trouvée sur une idée assez simple, c'est que la capacité du consommateur-producteur est elle-même soumise à obsolescence, de telle sorte qu'au bout d'un certain temps, l'obsolescence l'emportera sur les bénéfices attendus de l'expérience. En tout état de cause, la productivité décroissante des savoir-faire est substituée à l'hypothèse fort contestable de l'utilité marginale décroissante et permet de continuer dans l'épopée de l'homo economicus. Troisième défi à relever, éviter que les individus ne s'intéressent de trop près à la répartition des ressources ou ne la contestent, ce qui ouvrirait alors le débat économique aux valeurs politiques et plus précisément aux conflits liés à la redistribution. Or, comment garantir que les individus ne s'intéresseront pas vraiment aux autres et aux distances qui soit les en rapprochent, soit les en éloignent? Là encore, deux possibilités sont ouvertes. Introduire des valeurs sociales pour éclairer ces débats en termes de redistribution, mais en altérant alors la conception de l'homo economicus, ou au contraire, maintenir le postulat de l'homo economicus en transformant la redistribution, qui apparemment est ce que l'on appelle un jeu à somme négative, en jeu à somme positive. C'est cette seconde voie qui fut développée par un certain nombre d'économistes qui recoururent alors au concept d'altruisme comme retour des satisfactions des autres sur mes propres satisfactions. Si je retire une satisfaction de la satisfaction des autres, je peux intégrer dans mon utilité, dans ma fonction d'utilité, l'augmentation des consommations consommées par les autres. Cette construction connaît deux versants. Un versant statique. Celui qui a plus valorise la fermeture de l'avantail et accepte le principe de donation volontaire ou d'un début de redistribution. C'est la version la plus connue. Deuxième version, celle d'un philosophe célèbre, Rawls. C'est la version dynamique. Celui qui a moins accepte l'ouverture de l'éventail, car même s'il va souffrir d'inégalités aujourd'hui, il sait que grâce à ces inégalités, il y aura plus d'épargne, plus de croissance, et donc plus de biens et de services pour lui demain. Cette solution est effectivement assez habile, au moins sur le plan intellectuel, et elle permet de soutenir l'idée d'un jeu à somme positive. Là, on pouvait s'attendre à un jeu à somme nulle. Mais les problèmes sont loin d'être réglés. Les préférences des individus portent autant sur la manière d'arriver au résultat que sur ce dernier. Et avant de considérer que la redistribution est un jeu à somme positive, encore faut-il supposer que tous les individus la considèrent bien comme telle. La fiction d'un agent sensible aux effets externes, c'est-à-dire aux variations d'utilité des autres, résiste mal au fait que lorsque l'on parle de redistribution, on passe plutôt de l'individu aux groupes sociaux, tant les déterminants de l'inégalité renvoient des aléas individuels à des variables objectives. Et même si on en restait à l'altruisme, on pourrait suivre de toute autre voie que celle qui nous est proposée par les tenants de l'homo economicus, par exemple celle proposée par Polanyi, pour lesquelles les dons ne se prêtent pas au calcul économique, car ce qui est important, ce n'est pas la valeur du don, mais son principe même. Quatrième défi, pourquoi les individus créent des institutions ou s'y regroupent sans que l'on ait besoin de poser le problème des valeurs sociales fondatrices de ces institutions? Est-ce que cela est seulement possible? Et cela ramène d'ailleurs à un point de départ que je soigneusement laissais pour compte. Les préférences des individus ne peuvent-elles pas porter sur les processus pour arriver à un résultat autant que sur le résultat et donc sur la valeur différentielle des institutions ou des organisations qui vont y conduire. Dans un premier temps, on a plus ou moins répondu en économie à ce défi en fondant les institutions sur la nécessité de gérer les imperfections du marché réel. Mais la principale réponse vient aujourd'hui des théories dites néo-institutionnalistes. Il est de l'intérêt des individus de s'associer ou non dans des institutions en soumettant les frontières de leur coopération à des calculs qui minimisent les coûts. L'introduction des institutions dans l'analyse s'effectue par simple application du calcul économique au choix des formes institutionnelles. Les unes économiseront plus de coûts de fonctionnement ou de transactions que d'autres, et c'est donc celle-là que l'on choisira. On se retrouve donc devant un phénomène paradoxal. Face à la nécessité d'intégrer les institutions dans le champ de l'analyse, on se contente de les ramener dans le champ de l'analyse coût-bénéfice standard et d'en faire en quelque sorte, à l'égal des homini-économici, des instituci-économici. C'est d'autant plus paradoxal que l'on pense l'institution capable d'atteindre automatiquement le résultat envisagé sans savoir comment elle le fera. Et finalement, un dernier défi à la construction de l'homo economicus. Défi posé cette fois-ci à la frontière de la micro et de la macroéconomie. Si le système économique, au sein desquels les homini economici sont immergés, fonctionne mal, la tentation peut être de faire intervenir l'État et d'ouvrir alors, aux yeux des économistes, la boîte de Pandore des valeurs et des conflits sociaux. Les débats intervenus entre les post-keynésiens et les néoclassiques, qui sont nos deux grandes écoles, n'ont pas concerné directement l'homo economicus jusqu'au moment où, dans leur volonté de dénoncer l'inefficacité et le coût des interventions publiques, les économistes néoclassiques ont recouru à un concept relativement mystérieux a priori, celui d'anticipation rationnelle. En effet, le meilleur moyen de se prévenir contre toute intervention publique et sur les débats de valeurs qui ne manqueront pas de lui être liés, c'est de montrer que ces interventions sont inefficaces. Et c'est ce que Lucas fit en expliquant que des individus parfaitement informés ne manqueraient pas de décrypter dans l'annonce d'une intervention publique l'existence d'un déséquilibre et qu'ils se mettraient eux-mêmes à l'abri de ce déséquilibre, privant alors l'intervention de toute efficacité. L'individu est donc supposé capable d'anticiper de manière rationnelle les conséquences de ses actes comme de ceux d'autrui, et il fera, le cas échéant, les investissements pour disposer de cette information parfaite grâce à laquelle ces anticipations deviendront rationnelles. Face à ces étapes successives, qui sont autant de réductions successives, autant de manières effectivement d'éviter que le débat sur les valeurs ne pénètre sur le terrain de l'économie, deux questions peuvent être posées. Malgré ses défauts, l'homo economicus n'aide-t-il pas à mieux comprendre les phénomènes économiques ? Deuxième question, existe-t-il aujourd'hui des possibilités internes à l'économie pour élargir une telle vision et dépasser son réductionnisme ? Face aux critiques dont est effectivement victime l'homo economicus, si l'on peut dire, on peut aussi relever quelques-uns de ses accords. Certains économistes, par exemple Buchanan, avaient vu dans l'introduction de l'homo economicus sur le terrain politique un garde-fou contre les débordements du pouvoir et de Léviathan. Et c'était effectivement des contributions intéressantes qui ont mis à jour un certain nombre de mécanismes qui n'étaient pas aussi idéaux qu'on pouvait le penser. Lorsque l'on regarde les travaux sur l'économie institutionnelle, on constate effectivement d'énormes progrès quant à la manière dont évoluent les institutions dans le temps. Mais au-delà de ces apports, une remarque plus générale s'impose. Les développements directement induits par l'homo economicus ne se prêtent guère à la vérification, ce qui est quand même paradoxal pour une science qui se veut à la fois science sociale et science exacte. Granger explique d'ailleurs cette fragilité en soulignant que cette rationalité économique est finalement empruntée à une psychologie élémentaire en ce sens que seule l'adaptation constante des moyens aux fins l'emporte. on ne précise rien quant au départ sur, on ne précise rien au départ sur l'utilité et sa détermination. Et plutôt que de psychologie, il propose de parler de non-psychologie. Rosenberg parle lui aussi de psychologie pré-scientifique. Il souligne qu'on ne fait appel pour expliquer les actions qu'à des variables intentionnelles, insusceptibles d'être identifiées de manière indépendante, ce qui conduit à supposer que la théorie est vraie au départ. Par exemple, on ne peut adhérer à l'analyse du marché du travail que si on considère le travail comme consommation négative, ce qui est loin d'être toujours vérifié. Ces affirmations en termes de désir et de croyance génèrent ce qu'il appelle des contextes référentiels opaques. Les économistes peuvent-ils, malgré cela, dépasser ces impasses à l'aide de leurs instruments traditionnels ? Considérons, à titre d'illustration, je ne prendrai qu'un exemple ici, faute de temps, l'introduction qu'ils font des valeurs éthiques dans l'analyse des comportements des travailleurs, des entreprises et des institutions. On sait effectivement que le coût des transactions comme des hiérarchies sera d'autant plus élevé que certains truqueront ou tricheront et d'autant moins élevé que des valeurs d'honnêteté prévaudront. Mais l'honnêteté est-elle plus abondante que l'opportunisme ? Difficile à affirmer, sauf à passer à un débat sur la production de cette valeur sociale, ce qui, justement, n'est pas fait par l'économie. Cette ouverture sur l'éthique ne change donc pas grand-chose tant que le débat sur les valeurs sociales est esquivé. Fred Hirsch avait écrit que la poursuite de l'intérêt individuel permet à la fois de faire fonctionner l'économie et d'en saper le fonctionnement, et Talcott Pearson avait écrit que les règles de loyauté censées animer le marché ne pouvaient être sécrétées par le marché lui-même, ce qui en démontrait les limites. Ces mentions sympathiques à l'honnêteté ne changent donc pas grand-chose à la manière dont fonctionne aujourd'hui le programme de l'Homo Economicus, lequel ne cesse de créer des divorces entre sa manière de faire et la réalité des problèmes. Ainsi, on continue de faire de la famille un lieu d'investissement en capital humain, alors que son fonctionnement est quand même autrement complexe. Ainsi, on continue de considérer comme suspect le troisième secteur, celui qui introduit des valeurs de réciprocité et de coopération, au motif tout simplement de ce qu'il renonce à maximiser le profit et qu'il devient douteux de ce seul point de vue. Ainsi, on traite au mieux le problème de la pauvreté des nations sur le mode d'un altruisme rationnel, la pauvreté de certaines nations émettant des effets externes négatifs sur les nations les plus riches. La solution risque de se faire attendre tant que les valeurs qui président à ces débats ne s'enrichiront pas d'une approche fondée sur la solidarité, ce qui va bien au-delà d'un réductionnisme aussi plein de compassion soit-il. Je regarde, excusez-moi, il faudrait un petit miroir pour les autres. Bien. Il existe donc, j'en viens à la partie finale, il existe donc une différence entre ceux qui reconnaissent une instance économique avec lesquelles les autres instances, dont le politique, devra dialoguer à égalité de considération, c'était le premier débat, et ceux pour qui le comportement de l'homo economicus doit servir à valider les comportements, quels qu'ils soient et où qu'ils interviennent. Il existe donc une différence entre ceux qui verront dans l'intérêt un élément possible et réaliste de coordination des activités économiques et ceux qui en feront la seule justification concevable du comportement des hommes en société. Montrer que les relations des hommes aux choses importent, ce qui est la réponse au premier débat, ne signifie pas que ces relations ne soient pas médiatisées par des hommes, ce qui est pourtant la négation qui résulte en quelque sorte de l'homo economicus. Tout en affirmant d'ailleurs l'autonomie de l'économie, Adam Smith avait bien pressenti ce risque. Lequel risque était de réduire l'être humain. Il semble impossible que nous ne puissions trouver d'autres raisons d'apprécier un homme que celles pour lesquelles nous apprécions une commode à tiroir. Et Amartya Sen d'ajouter ici, les libéraux de Manchester ne se battaient pas pour la victoire de la rapacité et de l'égoïsme satisfait. Leur notion de l'humanité s'appuyait sur un ensemble de valeurs plus positives. Si leur optimum était parfois teinté de naïveté, ils n'avaient pas tort de croire que les individus pouvaient cultiver des attitudes mutuellement avantageuses, non sous la pression de l'État, mais par la compréhension rationnelle de leurs nécessités. Pourtant, bien des courants dominants de l'économie contemporaine ne continuent à étendre sans dialogue, les normes de rationalité économique à tous les domaines de la vie des hommes en société. Et on aboutit au paradoxe suivant, qui va bien au-delà de la réduction. L'homo economicus, qui avait soigneusement exclu toute passion autre que l'intérêt, prétend éclairer tous les problèmes et toutes les passions de la vie en société. Il prétend devenir le prisme de l'analyse des hommes dans leur épaisseur humaine et sociale, et il prétend justifier ce traitement sur le fait que la liberté de choix de l'homo economicus fonderait à lui seul l'efficacité. X, pourtant peu suspect de position antilibérale, ne minait-il pas cette manière de faire lorsqu'il écrivait « L'idée que la liberté en matière économique engendre l'efficacité » Non, c'est une autre, pardon, c'est la suivante. « L'idée que la liberté en matière économique engendre l'efficacité ne constituait après tout qu'une conséquence secondaire. Je pose donc la question suivante. Est-il légitime que nous ayons oublié, et pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'une amnésie totale, l'autre versant de l'argumentation, l'efficacité engendre-t-elle la liberté ? La science économique ne devient-elle pas alors une menace pour elle-même ? Ne s'auto-réduit-elle pas d'elle-même ? Schumpeter avait abordé ce problème en disant que ce qui compromettrait l'avenir du capitalisme viendrait non pas de son manque de performance, mais de ses contestations internes et notamment de sa manière de se représenter les comportements. Le capitalisme crée un, je le cite, le capitalisme crée un état d'esprit critique qui, après avoir sapé l'autorité morale des autres institutions, se retourne à la fin contre lui-même. À son grand étonnement, le bourgeois découvre que l'attitude rationaliste ne s'arrêta pas à l'attaque des rois et des papes, mais en vint à attaquer toute la gamme des valeurs bourgeoises. Et ces critiques ont ressurgi avec l'école de Francfort, pour laquelle la position prééminente de l'intérêt personnel dans la société capitaliste cantonne la raison dans un rôle subalterne, réduite à n'être plus qu'un instrument utilisé en vue d'un objectif prédéterminé, elle n'a plus rien à dire sur ce que devraient être les fins de l'activité humaine. Mais, à chaque fois que la croissance reprend, ces avertissements sont laissés pour compte, ne réapparaissant qu'à l'occasion des crises, où l'on parlera d'ailleurs plutôt de crise des valeurs morales à ce moment-là. Aussi, aujourd'hui, dénoncer la réduction créée par l'homo economicus ne doit donc pas conduire à nier à tort l'autonomie et l'importance des phénomènes économiques, mais apporter à raison plus d'attention sur la manière dont la production de valeurs sociales peut s'immiscer dans l'économie, ses institutions et ses représentations. C'est à cette ouverture qu'invite aujourd'hui bien des luttes sociales signalées dès le départ. La montée en puissance des institutions à but non lucratif, les avocats des nouvelles solidarités, les expériences de développement local. La réduction dénoncée est celle du marché comme fin en soi, mais non comme instrument. La réduction dénoncée est celle de la réduction de l'économie à une simple gestion et non pas de l'économie en soi. La réduction dénoncée est celle qui assimile les individus à des paramètres et non à des êtres réels capables de coopération en réactivité aux préoccupations des autres. La science économique, née de débats élevés sur la morale, le progrès et la justice, et qui avait su articuler l'économie aux autres instances, n'est donc pas condamnée à se circonscrire dans un langage peu à peu devenu irréel, dont la légitimité ne peut plus que puiser à ce moment-là à des rapports de force. Mais encore doit-elle accepter de s'ouvrir à des interpellations qui devraient se transformer en autant de chantiers. Le premier chantier est incontestablement celui de l'analyse des préférences. Comment aller au-delà des préférences dites de premier ordre ou celles qu'on révèle sur les marchés pour analyser les métapréférences ou les préférences des individus quant à leurs préférences, passant alors de l'analyse des goûts à celle des valeurs et se situant inévitablement sur le domaine des valeurs sociales. Le second chantier consiste à dépasser une approche utilitaire du travail pour le prendre en considération comme expression de la personnalité, ce qui doit conduire aussi à raisonner en termes d'activité, là où on raisonne exclusivement en termes d'emploi. Un troisième chantier devrait être la prise en considération des variétés institutionnelles et de gestion. Il existe aujourd'hui des entrepreneurs civiques, des associations intermédiaires, des institutions du troisième système, des réseaux à but non lucratif, qui n'oublient pas le concept d'efficience, mais l'insère dans un concept d'efficacité plus large que celui de profit, prenant alors en charge le long terme et les solidarités. Un quatrième chantier est celui du traitement du temps, qu'il est impossible de réduire, comme on le fait exclusivement en économie aujourd'hui, à la simple prise en considération des taux d'actualisation ou du taux d'intérêt. L'investissement, qui devrait être au sens étymologique du terme une révolution, n'est plus chez nous, effectivement, que la tangente d'une croissance postulée a priori. Les dynamiques et les apprentissages que véhiculent le temps et l'histoire restent cantonnés à l'extérieur, d'où l'incapacité qu'on a aujourd'hui à redéfinir la notion de développement soutenable, autrement qu'en termes de bénéfices et de coûts, quitte à inventer d'autres types de coûts. Un cinquième et dernier chantier devrait être celui du traitement des milieux territoriaux au sein desquels vivent les communautés et les personnes. La science des marchés a fait des territoires les sous-ensembles d'un espace totalement malléable que seuls les coûts de transport venaient spécifier. Cette uniformisation fondamentale conduit ceux qui bénéficient de fonctionnements ou de délocalisations moins bonnes que d'autres à vivre leur situation sous le seul angle du retard et de la fatalité, d'épouser en quelque sorte, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, la vision des vaincus. Or, des partenariats locaux et des logiques d'organisation des territoires savent faire ce que le marché n'arrive pas à faire, construire les ressources et les apprentissages de leur développement. Je ne sais pas si vous avez vu la première diapositive, mais il y avait une citation de Rimbaud, extrait d'ailleurs d'un texte où il parle aussi de l'horreur économique, mais dans un sens un peu plus riche que d'autres. Et cette citation était la suivante. « Le plus élémentaire physicien sent qu'il n'est plus possible de se soumettre à cette atmosphère personnelle, brume de remords physiques, dont la constatation est déjà une affliction. » L'économie classique s'était efforcée de maintenir un équilibre entre des valeurs comme l'intérêt ou la relation à autrui, ce qu'elle appelait alors la bienveillance, mot un peu ambigu. La suite n'a pas su tenir cet équilibre en traitant la relation à autrui sur le mode du palliatif ou du simplisme. Déréduire l'économie implique au minimum aujourd'hui d'y intégrer cette relation à autrui, non pas comme substitution à l'intérêt, mais comme passion d'égale dignité que l'intérêt.
Juste voilà. Un complément par
attendez
rapport
qu'on vous voit.
À la...
Voilà, on vous voit.
Voilà, celui-là.
Merci.
À la conclusion que vous avez donnée, vous êtes passé très rapidement sur la différence entre emploi et activité. Je voulais en savoir un peu plus, bon, parce que c'est effectivement un enjeu aujourd'hui dans la société qui n'est plus celle du plein emploi, etc. Donc, est-ce que vous faites référence à des travaux comme ceux de Boissonna sur la pure activité?
Oui, j'essaie de réagir. Les économistes raisonnent quasi exclusivement en termes d'emploi. Et bon, comme j'essaye de le montrer à un moment, l'emploi est au fond la pénibilité qu'il faut supporter en quelque sorte pour pouvoir acquérir le revenu et donc acquérir les biens et services. Et c'est, nous ne sommes jamais sortis vraiment de ce paradigme, au moins dans les modèles, dans les ouvrages d'économie standard, je dirais, dans ce qu'on appelle le mainstream économique. Et le drame, c'est qu'on ne considère donc plus du tout l'emploi sous l'angle de son contenu, en quelque sorte, donc, je dirais, de son activité, et le fait qu'à travers cette activité, il y a toute une série d'autres de valeurs que le revenu, ce qui ne veut pas du tout marginaliser le rôle du revenu, bien sûr, qui doivent y être intégrées, hein, qui doivent y être intégrées, notamment, la réalisation des... J'ai fait légèrement allusion, bon, le temps est très court, hein, notamment la valeur de lien social avec les autres, notamment la valeur d'épanouissement, etc. Et alors, ça, c'était ça ce que j'ai voulu exactement dire hein, à ce stade-là. On peut aller beaucoup plus loin, effectivement. Tous ceux qui aujourd'hui font des débats ou entretiennent des débats sur ce qu'on appelle la fin du travail essayent de montrer que, effectivement, avec la fin du travail ne veut pas dire la fin de l'activité, en quelque sorte. Hein, et qu'on peut faire des tas d'autres choses, évidemment, et que la place d'un individu gagne à être définie en termes de ces tas d'autres choses, et pas seulement en termes, je dirais, d'activité salariée, donc d'emploi. Hein. Mais je suis plutôt resté à la première version ici, mais je pense que le débat est totalement continu hein, là-dessus.
Je voudrais connaître votre sentiment sur les cours qui sont donnés aux étudiants en sciences éco et dans les écoles de commerce ou de gestion qui présentent une vision très univoque, très, très pensée unique finalement de l'économie.
Vous voulez préciser votre question ?
La typologie des cours qu'on peut faire en sciences éco ou dans les écoles de commerce ou à HEC ou les écoles de gestion est quand même fondée sur un mode de démonstration de l'économie, du commerce qui est très normatif et qui finalement modélise toujours le même type de réflexion que justement vous démontrez et que vous combattez dans votre intervention.
Non, je vous ai demandé de la repréciser pour savoir si la question à laquelle je m'attendais c'était sur l'utilisation des mathématiques ou si c'est plus substantiel, enfin si c'est sur
le discours dominant de pensée unique.
Bon, écoutez, moi ce que j'ai essayé de montrer, là c'est plus facile à le dire maintenant, on est toujours enregistré, non ?
Bien sûr.
Bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est très bien ce qu'ils nous demandent, parce que moi je n'ai pas choisi le sujet, on m'a demandé de le traiter, donc il a bien fallu trouver le moyen de le traiter. Et je me suis dit, bon, avec des expériences, des références, évidemment, hein, qu'il était tout à fait logique aujourd'hui de faire un procès à l'économie, y compris, je dirais, dans le contenu des enseignements. Hein, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Bon. Et ici, je l'ai centré, effectivement, sur cette analyse du comportement économique. Ce que j'ai aussi essayé de montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait ce procès à l'économie qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ne pas reconnaître la spécificité d'un champ économique, hein, avec des phénomènes, je ne dis pas qu'ils sont indépendants des autres, j'ai toujours parlé d'autonomie, hein, ici je n'ai pas parlé d'indépendance ou de quoi que ce soit, hein, et donc qu'il faut reconnaître effectivement qu'il y a place pour une réflexion de type économique. Alors ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, hein, dans les débats, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on ne fait pas la part entre les deux, et à partir de l'homo economicus, en quelque sorte, on cherche à réinterpréter toutes les connaissances économiques possibles et toute la matière de la connaissance économique. Et ça, je crois que c'est une très grande erreur. Mais je veux dire, il y a des enseignants qui savent faire la part des choses. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des programmes... Quand on fait certains programmes, il y en a qui savent expliquer, effectivement, jusqu'où on va, jusqu'où des choses sont contestables, jusqu'où d'autres le sont quand même moins, ou impliquent des réponses qui ne sont pas simplement des slogans « il faut détruire la micro » ou etc., je veux dire, hein, c'est ça. Bon. La deuxième chose, effectivement, c'est que la formalisation a poussé à l'extrême cela, parce qu'effectivement, le traitement de l'homo economicus est un traitement qui est parfaitement programmable, hein, comme vous le savez très bien. Donc finalement, de tous les concepts économiques, c'est sûrement celui qui se prête le plus à la formalisation. Et du coup, la formalisation a effectivement exercé un effet de levier considérable. C'est pour ça qu'elle est mise en accusation aujourd'hui. Et à mon avis, en partie à tort, je vous dis tout de suite, parce que dans la mesure où cette science se veut comme science, il faut quand même qu'elle trouve un certain nombre d'éléments de vérification. Donc il faut qu'elle ait des éléments de mesure. Donc il faut qu'elle ait effectivement un certain nombre de représentations formalisées. Donc, le vrai problème aujourd'hui, il est qu'effectivement, il y a un malaise qui est très profond. Moi, je continue à trouver ma matière passionnante, si je peux me permettre de le dire. Je ne suis pas du tout malheureux quand je fais de l'économie. Les étudiants, peut-être, mais ça, c'est autre chose. Enfin, avec moi, je parle avec les autres, chacun répond pour lui. Et la difficulté qu'il y a, effectivement, c'est qu'il est extrêmement difficile d'introduire des hypothèses un peu nouvelles. Ce que l'on peut faire, c'est d'interpeller de manière constante, en quelque sorte, bon, de mettre à jour des phénomènes qui sont très nouveaux. Bon, je prends un exemple, j'ai cité juste le développement local à la fin. Bon, aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous considèrent que, par exemple, les partenariats locaux sont des modalités d'organisation des relations entre les acteurs qui dépassent largement le marché. Bon, bah, c'est quelque chose qui commence, qu'un certain nombre d'économistes ont d'ailleurs développé, bon, mais qui n'a pas encore le droit de citer. Ça, je reconnais qu'à côté des machines très lourdes que constituent certains modèles, c'est très limité. Ceci étant, je voudrais quand même vous dire la chose suivante. Je vais peut-être vous choquer, mais il faudrait quand même expliquer pourquoi ce débat est beaucoup moins fort dans les autres pays que chez nous. Je veux dire, alors vous allez me dire, si vous allez aux États-Unis, bien sûr que les gens, bon, mais si vous allez en Russie, c'est pareil, si vous allez en Chine aujourd'hui, c'est pareil, etc. Je veux dire, aujourd'hui, la théorie économique est beaucoup mieux admise qu'on ne le croit en France. Hein. Alors peut-être qu'ils sont tous dans l'erreur, je veux dire, ça, après tout. Bon, moi, je ne peux pas soutenir cette idée-là. Je pense, par contre, ça, je vous donne mon interprétation, c'est qu'effectivement, il y a eu de plus en plus en France, et ça peut s'expliquer, un goût de la formalisation pour la formalisation qui est devenu, je ne dis pas encombrant, parce que ce n'est pas ça le problème, une fois encore, moi, je crois que on ne peut pas ne pas formaliser en économie. Mais c'est devenu une fin en soi, et c'est vrai que la sélection des enseignants comme des étudiants se fait en partie là-dessus, ce qui n'est pas très malin.
Pour une fois, j'en pose soin. Vous avez fait une remarque à la fin sur, ce sera la dernière, hein, je suppose, sur le fait qu'on dénonce l'erreur économique quand ça ne va pas, et puis ensuite, la croissance. Je veux dire, ça vous semble aussi typiquement français, ça ou... Parce que c'est vrai, je veux dire, comment ça se fait? D'où vient cet aveuglement périodique cette lucidité
Je me sens que c'était... Attendez, c'est pas nécessairement un aveuglement des gens qui travaillent sur l'économie, mm-hmm, ou qui pensent dessus. Je pense que les gens qui dénoncent aujourd'hui l'horreur économique, d'ailleurs, quand on lit bien les ouvrages correspondants, ça n'est pas spécifiquement lié, disons, aux 20 dernières années. Enfin, c'est en général des interprétations beaucoup plus générales sur l'économie de marché, etc. Mais c'est vrai que lorsque apparemment la croissance repart, c'est quand même une manière de ne plus reposer certains problèmes. Mais c'est beaucoup plus à la limite au niveau des gouvernements ou des organisations internationales. Moi, je vais prendre un exemple que je crois pouvoir connaître. Aujourd'hui, les débats sur l'emploi au niveau de la Commission européenne sont effectivement en train de changer. On se dit que, par exemple, toute une série d'actions innovantes, de soutien d'expérience locale, etc., n'ont peut-être plus lieu d'être. Au fond, il n'y a plus à gérer une espèce de société en marge, parce qu'on pense que, effectivement, l'extension de la croissance va résorber un certain nombre des problèmes que l'on rencontre. Et bon, c'est d'ailleurs pas vrai du tout, parce qu'on sait très bien que les problèmes sont beaucoup plus durables à ce niveau-là, et que par exemple dans les mécanismes du chômage aujourd'hui, ceux qui bénéficient de la reprise ne sont effectivement pas les chômeurs de longue durée, ou une partie en tout cas n'en bénéficiera probablement pas beaucoup. Mais c'est vrai que dans l'analyse économique, y a eu ça, hein, je veux dire... Regardez l'aventure du keynésianisme, si l'on peut dire. Bon, le keynésianisme, avec évidemment un certain décalage dans le temps, hein, mais le keynésianisme est devenu très important quand on a réinterprété la crise de 1930, puisque le keynésianisme a été pratiqué avant même qu'un certain nombre de travaux aient été faits. Et puis, effectivement, dans les années, c'était très clair, au début des années 70, où effectivement on était encore dans des taux de croissance très élevés, c'est le moment culminant du débat entre les post-keynésiens et les néoclassiques, et où les seconds disent aux premiers, mais écoutez, vous n'avez rien prouvé, tout est dépassé, etc. Hein. Les travaux de Friedman, qui sont les travaux fondamentaux dans ce domaine, sont exactement de cette époque. Donc je crois que, je ne sais pas si c'est une réaction humaine spécifique à l'économie ou pas, en tout cas ça, ce n'est pas typiquement français. Mm-hmm. Ça, c'est sûrement pas typiquement français.
Bien, bah écoutez, Xavier Greff, merci.